En ce mois de novembre, avec la fête de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts qui se font les premiers jours du mois, mais qui, dans toutes les communautés religieuses, dans toutes les églises diocésaines, se répètent au long du mois pour aboutir à la fête du Christ-Roi, moi qui ai, si j'osais dire, consacré au mystère de l'Église, nous acheminons petit à petit à célébrer le Christ-Roi et le début de l'Avent où nous méditons sur la fin de notre monde, notre fin, pourquoi nous sommes faits et nous sommes invités à regarder le royaume du Seigneur, ce royaume qui vient. Et donc l'évangile d'aujourd'hui qui va parler de la mort, de la résurrection, j'allais dire, il tombe à pic pour notre méditation. Nous sommes dans l'évangile de Saint Luc. Jésus vient d'entrer à Jérusalem de manière solennelle, avec la fête des Rameaux, et c'est la dernière semaine, la semaine décisive de Jésus, celle qui va avoir son couronnement dans la passion et la résurrection de Jésus. Couronnement de sa vie, couronnement de l'histoire d'Israël, couronnement de l'histoire du monde et de l'humanité, avec son salut qui est réalisé et qui nous est offert en ce jour. Mais auparavant, dans cette semaine, nous assistons dans l'Évangile à trois polémiques. Polémiques avec les chefs, les chefs du peuple, les chefs du temple, les chefs qui sont des pharisiens aussi, qui vont rentrer en polémique avec Jésus sur trois sujets, qui sont bien des sujets qui continuent à faire polémique aujourd'hui. Le premier, il est sur l'autorité de Jésus. De quelle autorité? On veut bien dire que tu es un prophète, mais quelle autorité? Et cela nous rappelle aussi que les évangiles que nous lisons ne sont pas simplement des histoires de Jésus, quitte à ne pas comprendre grand-chose, mais sont les apôtres qui nous prennent par la main pour nous faire cheminer dans un chemin de foi comme les apôtres, pour accueillir Jésus comme fils de Dieu. La deuxième polémique, qui est aussi bien moderne, elle concerne la politique et les questions de société. Et nous savons bien, en ces temps, que les chrétiens sont prêts aussi, eux aussi, à se déchirer sur les problèmes de société. Ici, c'est les questions de l'impôt à César et de la présence des Romains en Israël. Et puis la troisième, elle concerne la mort, l'au-delà. Question bien polémique, question bien difficile, question qui met en échec l'homme et son désir d'infini quelque part, et son désir de continuer toujours. Mais cette réalité, alors on pourrait dire aussi que de notre temps, avec les difficultés de la famille et les familles recomposées, on pourrait faire un tableau aussi compliqué que celui de... que celui du Sadducéen qui vient interroger Jésus. La mort, sur laquelle, bon an mal an, que nous le voyons ou non, nous méditons, à laquelle nous sommes confrontés, au moins par ce souvenir, déjà la Toussaint, parce que même si on ne pratique pas, les gens se souviennent et vont à peu près au cimetière à ce moment-là, eh bien, la mort, je disais, elle met en échec. Elle met en échec aussi les meilleurs. Rappelez-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, combien à la Pâque 97, après une sorte d'exaltation au moment où elle comprend qu'elle va mourir, elle va voir Jésus quand elle a des caillots de sang qui lui remontent dans la bouche, et bien ensuite, c'est cette nuit spirituelle où il ne faut plus parler du ciel parce que c'est comme un mur. Et elle va y être affrontée, nous y sommes tous affrontés. De manière difficile. Et quand survient le malheur pour nous, pour nos proches, nous pouvons être effectivement traversés par toutes ces questions. Mais la résurrection, vous ne trouvez pas que c'est un peu compliqué? Et surtout la question qui tue, la question difficile, parce que c'est la question à laquelle nous n'avons pas vraiment de réponse, eh bien, comment ça va se passer. Et dans notre monde, où nous sommes vraiment dans le royaume de savoir comment les choses vont se passer d'un point de vue scientifique, et aussi où nous sommes dirigés par notre imagination, eh bien, c'est impossible d'avancer. Et souvent, nous calons, alors que c'est un article du Credo, je crois, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Et nous avons beaucoup de mal à suivre Jésus et à nous y reconnaître. La question est compliquée dans l'évangile du Sadducéen, à souhait, embrouillée. Mais la réponse de Jésus, elle est claire. Elle est hyper claire, simple. Ne pensez pas le paradis, le royaume du monde à venir, comme on dit dans l'Évangile, ne le pensez pas comme une continuité de la vie humaine. Ce n'est pas simplement une répétition ou ce que l'on vit maintenant qui dure. Il s'agit, comme le dit la liturgie, notre vie n'est pas enlevée, mais elle est transformée. Notre vie, elle est prise dans ce mystère de la résurrection de Jésus. Et ce sont ces textes, par exemple, de saint Paul, qui sont tellement, tellement forts quand il parle de cette vie dans l'esprit. Car la résurrection, nous sommes appelés à en être, comme dit l'Évangile ici, les héritiers de la résurrection. Et on pourrait rester avec cette expression que Jésus emploie. Nous sommes fils de Dieu, héritiers de la résurrection. Et cela est déjà le mystère pascal qui s'accomplit. Cela a commencé à notre baptême. Et ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre à vivre aujourd'hui de la résurrection. Si le dimanche a une telle importance dans l'Église, c'est justement parce qu'il nous rappelle ce mystère pascal chaque dimanche et il nous invite à apprendre à vivre de la résurrection. Je reprends ce que dit saint Paul. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si Jésus est ressuscité, et saint Paul insistera dans d'autres endroits pour dire « si Jésus est ressuscité », j'allais dire, excusez-moi l'expression, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour nous associer à la vie en Dieu, à la vie dans l'Esprit. Et nous sommes invités, alors je vous disais, la petite Thérèse, par exemple, épreuve redoutable, alors que toute sa vie, elle pense au ciel. Mais qu'est-ce qui va se jouer? Il va se jouer, eh bien, la cohérence de tout ce qu'elle a vécu jusqu'ici, qu'elle a annoncé, de son désir immense du ciel, de son amour, de son désir immense de l'amour, de cet amour parfait, de cet amour total du Seigneur. Et il s'accomplit ce qui doit s'accomplir dans notre chemin spirituel, où elle va passer en atterrissant peut-être sur toutes les formes sur lesquelles elle a imaginé les choses, sur lesquelles elle se les a représentées, sur lesquelles elle a projeté énormément de choses pour apprendre, confronter à cette difficulté à aimer. Et c'est la force de la petite Thérèse qui va aimer, qui va apprendre, comme elle explique bien d'ailleurs dans son manuscrit C, qui date de cette époque-là, où elle parle, où elle fait comme ça un petit traité de la charité. Elle va montrer comment elle a appris concrètement à aimer ses sœurs, d'une manière toute simple. Ses grands désirs, oui, mais réalisés dans le temps, réalisés pas à pas, réalisés dans cette école d'amour qu'est notre vie, notre chemin de tous les jours, dans son quotidien, parfois rude, qui demande des combats. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, et c'est là toute la force de l'esprit d'enfance de Thérèse de Lisieux, c'est que, eh bien, elle sera comme l'enfant qui a un appétit de vivre, et les épreuves, et cette épreuve ultime n'aura pas raison de son appétit de vivre, de la violence du désir, comme la vie qui, chez les enfants, eh bien, a une force absolument extraordinaire et qui les fait passer par bien des combats, bien des difficultés, mais pour avancer debout. Et voilà que nous sommes pris dans cette grâce de la résurrection en apprenant à la vivre. Alors évidemment, la mort, elle va nous apprendre, elle est radicale, c'est un dépouillement radical où il nous faut apprendre à vivre encore de foi. Et comme je vous disais, non pas simplement de représentation comme demain ça ira mieux ou de ben, je ne sais pas, etc. Mais à vivre dès maintenant de cet esprit de la résurrection du Seigneur. Demandons-le activement. Demandons d'apprendre à vivre de ce mystère de la résurrection pour accueillir le Seigneur. Une expression dans notre texte, quand Jésus, après avoir répondu, pour montrer justement que ce n'est pas un chemin d'imagination, l'imaginez pas comme le monde, comme souvent l'art ou d'autres religions ou même chez nous dans les récits qu'on peut faire, on le montre. Mais la deuxième réponse de Jésus, elle est simple sur le fait de la résurrection. Il nous dit, en citant l'Exode, Dieu qui se présente comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, eh bien, il rajoute, il n'est pas le Dieu des morts, bien sûr, mais des vivants. Ils ont leur place. Ils ont leur place auprès de Dieu. Et si dans le judaïsme, on osait dire que, effectivement, les patriarches ont leur place vivant auprès de Dieu, ici, il termine, tous vivent, en effet, pour lui. Et ce qu'il nous faut apprendre, et c'est ces paroles si fortes de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Nous vivons pour lui, comme il disait dans un texte que nous avons lu cette semaine dans la messe. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie. Voilà, c'est pour nous. Mais nous avons à apprendre à vivre par lui, pour lui, en lui. Et c'est ce chemin que, et ici saint Paul parle, c'est sur des choses très concrètes, c'est sur l'accueil qu'on fait, la différence qu'on fait entre les personnes au moment de questions de manger, de nourriture, enfin vraiment du quotidien, d'apprendre à vivre avec cette joyeuse espérance, ce réconfort du Seigneur qui va nous donner d'avancer, de marcher sans oublier l'essentiel, sans oublier eh bien, cette charité, cet amour que le Seigneur, cette mission que nous donne le Seigneur d'aimer non pas pour nous-mêmes, non pas pour notre intérêt, mais pour que ce soit l'amour du Seigneur qui triomphe. Alors, je terminerai en parlant du mystère de la mort, en parlant du mystère de notre vie. Je terminerai par cette image que l'on m'a rapportée ces derniers jours, qui parle de la vie et qui dit « Notre vie sur terre, c'est un peu la vie de l'enfant dans une couveuse. » L'enfant est là, il vit, mais il doit lutter, il doit se battre, il doit avoir courage, il se sent un peu seul, parce que même si sa mère est là et les médecins autour, eh bien, sont là pour l'entourer, pour le faire vivre, mais il n'est pas dans cette pleine communion. Et notre vie, elle est un peu comme l'enfant dans la couveuse qui attend de pouvoir vivre en communion plénière, en communion, je parle pour l'image, pas pour l'image mais pour la réalité, en communion glorieuse avec le Seigneur. Et surtout, n'oublions pas quand nous pensons à Dieu, quand nous pensons au sacrifice que Jésus a fait pour que nous ayons la vie, n'oublions pas que derrière la couveuse, il y a la mère qui attend avec beaucoup d'émotion, d'impatience, d'intensité que l'enfant lui soit donné et qu'elle puisse le serrer dans ses bras.